Ainsi soit-elle. Allô tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie des filles d'Ainsi soit-elle et on profite de l'occasion tout d'abord pour souhaiter à tout le monde une bonne semaine de la Marche mondiale des femmes. Et oui, ça commence aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent en direct. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous joindre aux personnes qui sont déjà dans la rue, le point de rendez-vous à 19h était, je vais vous dire le point d'arrivée parce qu'on veut que vous nous écoutiez pendant l'émission, donc où on va se rendre nous tout de suite après l'émission, c'est au Grand Théâtre à 19h, toutes les personnes seront là. Aujourd'hui, le thème, vous savez que les marches, cette semaine, il y en a une par jour, une par revendication. Et aujourd'hui, c'était pour l'autonomie économique des femmes. Mais on en reparlera à la fin de l'émission avec Evelyne. On va vraiment vous faire un topo de toutes les activités au niveau régional qui se passent et évidemment de la Grande Marche le dimanche à Rimouski. Mais pour aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous, c'est Rosaine Potin. Bonjour Rosaine.
Bonjour Hélène.
Ça va
bonjour
bien? Hélène. Donc Rosaine est là pour nous parler entre autres de son film « Attention féministe » et également aussi d'un film qu'elle vient tout juste de réaliser au mois d'août dernier au Mexique, « Si à la vida », donc « Oui à la vie ». Et vous voyez déjà le thème qui se profile, donc on en parle tout à l'heure avec elle. Et Evelyne va nous parler des... Vas-y Evelyne, de quoi tu nous parles?
Je vais faire un petit topo sur les typologies du féminisme, puisqu'on parle de Marche mondiale des femmes et de féminisme ces temps-ci, et que c'est un bien grand mot pour bien des gens.
Donc, on va parler des féminismes, si je te comprends bien. C'est super. On va commencer tout de suite en musique, étant donné qu'on est en feu, parce qu'on va prendre la rue toute la semaine. En tout cas, moi, j'ai l'intention d'être dans la rue tous les jours. Et oui, on commence avec une chanson de Kenny Arcana, « Désobéissance civile » pour nous mettre dans le bain.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans puis que des avions se sont crashés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons on dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Une place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3 en compagnie de l'équipe d'Insisquatel et on commence tout de suite dans le vif du sujet à parler avec Rosaine Potin qui est avec nous de son film Attention féministe. Donc, rebonjour Rosaine.
Rebonjour.
Je suis vraiment morte de rire, là. Je vais me calmer. C'est juste parce que c'est la révolution féministe dans les rues en ce moment. Donc, je suis de bonne humeur. Mais on va parler de ton film. Donc, question très simple. D'où t'es venue l'idée de faire ce film?
Donc, Attention féministe, c'est quand même un film sur les jeunes féministes québécoises. C'est un grand mot, hein, les jeunes féministes québécoises, parce qu'il y a 5 personnes qui représentent la jeunesse féministe québécoise. Fait que c'est plus pour essayer de dire un petit peu que le féminisme n'est pas tout joué dans les années 60 avec les films en noir et blanc qu'on est habitué de voir, là, mais qu'aujourd'hui encore, il se passe quelque chose, puis que les jeunes représentent, en fait, reprennent le flambeau dignement. Puis c'est ça, à un moment donné, je participais à une formation, puis il y avait quelqu'un qui voulait faire un film sur le féminisme, puis je suis là, hey, mais c'est mon film, ça, c'est pas ton film. En tout cas, je trouvais que la manière dont elle voulait en parler, c'était la manière dont j'en avais toujours entendu parler, puis j'étais un peu tannée de voir des films où on me montrait comment est-ce qu'elles étaient tellement hot, les filles, dans les années 60, puis qu'elles avaient tout fait, puis qu'aujourd'hui, on pouvait plus rien faire.
Je me dis, puis qu'on fait tellement rien, puis qu'on est assises, sur les droits acquis par d'autres. Puis
oui, parce qu'elles ont tout fait avant nous, exactement. Puis nous autres, ben, on est juste comme morts de peur.
Privilégiées.
Puis en même temps, c'est ça, privilégiées d'avoir tout gagné. Mais c'est ça, je me suis dit, ben, j'ai comme envie d'aller voir qu'est-ce que les filles font aujourd'hui, puis comment je pourrais illustrer leur action. Fait que c'était un peu ça l'idée de départ.
Puis ça, c'était quand?
Ça, c'était en 2006 que j'ai eu l'idée de faire le film, puis j'ai commencé à écrire pour avoir de l'argent, parce que ça prend de l'argent pour faire des documentaires, en 2007.
OK. Fait
donc, quand c'est le ça. Film va sortir, ça fera 4 ans.
C'est ça, parce que j'étais présente à Vidéofemmes au lancement, justement, mm-hmm. de ta bande-annonce, puis tu disais c'est un film que ça fait 3 ans que je traîne dans mes poches, qui m'accompagne.
Exactement.
Donc, on voit quand même la démarche. Puis justement, peux-tu nous parler un peu de cette démarche-là? Comment tu dis qu'on suit 5 personnes? Donc, comment tu as trouvé ces 5 personnes-là? Est-ce que tu les as accompagnées dans des actions, des moments plus personnels? Ou comment ça s'est passé?
Bien, c'est ça. Fait que là, quand j'ai eu l'idée de faire le film sur les jeunes féministes, je me suis dit, OK, je vais aller voir ce qui se passe. Fait que, ben, il y a beaucoup, beaucoup des rassemblements féministes à Montréal. Je suis allée à plusieurs rassemblements, entre autres un rassemblement qui s'appelait Back Off, un rassemblement qui s'appelait Agissons Ensemble. Puis là, ben, à force d'aller dans les ateliers, d'assister à des conférences, j'ai rencontré une couple de personnes qui étaient comme un peu identifiées sur la scène féministe. Il y en a dont je me suis rapprochée. Puis tranquillement, ben, c'est comme ça que j'ai choisi les gens qui sont devenus comme les personnages du film, parce qu'ils deviennent comme des personnages vu que c'est un film. Mais je voulais quand même... c'est quand même assez radical comme film, je pense, mais ça se veut quand même grand public. L'idée, c'est un petit peu de démystifier qu'est-ce que le féminisme, parce que, encore là, vu que ça fait 4 ans que le film m'accompagne, ça fait 4 ans que j'entends toutes sortes de...
Tu t'en parles avec les gens, ouais.
Oui, quand je prends Allostop, quand je me retrouve dans un bar, qu'on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, quand je suis à un repas de famille, quand je suis en tout cas...
Fait que là... un film sur le féminisme. Ah! Okay.
Ah, mais moi, le féministe, en tout cas, je trouve qu'elles sont toutes un petit peu trop extrémistes, puis ce qu'elles veulent, c'est dominer les hommes, tu sais, des espèces de gros classiques, mais je veux dire, c'est hallucinant quand tu l'entends partout.
Les lesbiennes qui se rasent pas les jambes.
Les lesbiennes radicales enragées, exactement, ouais. Fait que là, j'étais comme, je t'ai tannée d'entendre ça. Au départ, en fait, le film, je voulais faire un film sur pourquoi les gens sont pas féministes.
OK.
Puis à force d'entendre toutes sortes de bêtises sur comment ils savaient pas c'est quoi le féminisme, je me suis dit, ben, je vais montrer comment on est hot, les féministes, plutôt que de montrer comment ils sont cons, les gens qui comprennent pas c'est quoi le féminisme. Pardonnez-moi l'expression. Je me suis dit, je vais montrer comment on est hot, comment c'est cool d'être féministe, comment c'est super trippant parce que...
Comment ça se vit aussi aujourd'hui?
Ouais, c'est ça. Comment est-ce que c'est super actuel? C'est pas du tout l'image que les gens ont des féministes. Puis, en tout cas, moi, je sais que le féminisme m'a apporté beaucoup, beaucoup dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment un outil d'émancipation incroyable pour les femmes. Puis, je trouve ça triste, toutes les jeunes femmes qui se privent du pouvoir que pourrait leur apporter le féminisme. Parce que c'est un vrai pouvoir sur ta vie. Puis, si tu sais pas c'est quoi et que t'as honte de dire féministe, c'est quand même super triste. Une femme qui a honte de se dire féministe, pour moi, c'est triste.
Il y en a tellement. Moi, dans mes cours, j'en entends beaucoup qui vont commencer en disant « Ben, on n'est pas féministe, là, mais on va dire ça. » Puis finalement, tu retrouves l'analyse. C'est vraiment la part de l'étiquette aussi, puis d'où ça vient.
Alors qu'en plus, je veux dire, en tout cas, moi, les gens qui veulent pas être mon ami parce que je suis féministe, ces gens-là m'intéressent pas. Là. Je veux dire, concrètement, je vois pas de qui je me prive en disant que je suis féministe, là. Puis au contraire, il y a plein de gens que ça fait triper d'avoir quelqu'un qui s'affiche, qui s'affirme, qui a des idées, parce que, tu sais, on s'entend qu'on est un petit peu dans une génération, je trouve, morte, en tout cas.
Politiquement, tu veux
ouais,
dire?
Ouais, mais... Parce que j'ai eu le débat avec des amis en fin de semaine, puis je peux pas arriver avec ma grosse généralité.
Ben non, mais sans ta généralité, puis on l'a déconstruit après, au pire.
Mais des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Les gens veulent pas d'étiquette, veulent pas s'afficher, veulent pas trop se montrer avec... tu sais, surtout pas avoir l'air radical, pas avoir l'air de vouloir dire à quelqu'un que c'est pas bien ce qu'il fait. Fait qu'on dirait qu'alors qu'en plus, il y a pas plus... large comme étiquette que l'étiquette féministe, là.
Comme on va en parler avec Evelyne
tout à fait. Je veux dire, tu peux être sur n'importe quelle place de l'échiquier politique et te dire féministe. Mm-hmm. Je veux dire, la petite base d'analyse que ça prend en commun, c'est de dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes et de revendiquer une égalité. Alors après, comment tu revendiques ton égalité puis quels moyens tu mets en place?
C'est
différent, mais je veux dire quand même, c'est assez... c'est pas très impliquant, je trouve, comme une étiquette féministe au départ, là. Fait que l'idée, c'était ça. C'était comme d'enlever les préjugés que les gens ont pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Puis, tu sais, si les petites filles pouvaient, les ados, les jeunes, voir le film puis se dire « Ah, finalement, moi aussi, je suis féministe, puis c'est cool d'être féministe, je serais vraiment contente. »
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ça me donne des idées parce que moi, je travaille dans un cégep et ce film sera sûrement projeté éventuellement. On en reparle. J'ai envie que tu nous parles un peu plus des personnes que tu as suivies. Bon, il y a Coco, Barbara. On va commencer avec elle. Je te laisserai les nommer. Donc, Coco en premier. Pourquoi Coco? Peut-être en parler un peu. Moi, je la connais. C'est une personne assez connue dans le milieu militant à Québec parce qu'elle est venue, entre autres, au Mardi de l'Anarchie faire un atelier sur la question queer. Mais... en parler à notre auditoire néophyte.
Fait Coco, c'est elle, mais c'est il aussi.
Ouais.
Coco, c'est un queer, c'est un trans. Coco, il veut pas être associé à aucune catégorie de sexe. Il se reconnaît ni dans la catégorie femme, ni dans la catégorie homme. Finalement, il s'éloigne de ces catégories-là. Puis, il s'est beaucoup fait associer... il s'est beaucoup fait rejeter des différents groupes, en fait.
Ouais.
Souvent, quand il va à la toilette, c'est compliqué. On lui dit qu'il est pas dans la bonne toilette. Fait qu'à un moment donné, il en a eu marre de pas être représenté. Fait que... Il s'est beaucoup exprimé dans ses œuvres artistiques, en fait, dans son fanzine qui s'appelait Il pleut des gouines, dans son installation qui s'appelle Jane Le Pou, sur son site internet, sur son blog. Il est souvent en train de questionner ça. Puis, par exemple, Jane Le Pou, c'est des petits signes de toilette et il a essayé de représenter toutes les catégories sociales qui
les
sont
possibilités.
Pas représentées ou qui n'ont pas leur place, en fait.
Par exemple,
t'as les gitans, t'as les palestiniens, t'as une sirène avec une moustache, c'est pour essayer de faire comme entre les deux sexes, t'as drag king, drag queen, les femmes poilues, les femmes de couleur, les femmes en prison, les gens qui ont le HIV, donc toutes sortes de petites étiquettes qu'on peut t'accoler, mais qui te donnent pas forcément des droits ou des représentations dans la société intéressants.
Qui affichent plus l'exclusion, finalement.
Exactement. Fait que c'est son installation qui est vraiment autour de justement cette catégorie de sexe-là. Fait que Coco, en fait, c'était l'ami d'un ami, puis je l'ai rencontré, puis je l'appelle tout le temps la bibite. Mais c'est vrai que c'est une forme de bibite. C'est un artiste incroyable, puis il nous parle vraiment avec son cœur, puis il est comme dans... je veux dire, parce que la base du combat féministe, c'est beaucoup de dire les femmes doivent avoir des droits, les hommes, puis Coco, il s'extrait de cette différence-là, puis il nous amène comme plus loin dans la réflexion.
C'est pour ça que je te pose la question sur Coco, parce que comment ça s'insère, sa réflexion dans l'attention féministe?
Ben, je pense quand même qu'actuellement, tu vois, j'aurais terminé par Coco, mais puisqu'on commence par Coco, allons-y comme ça. Je pense qu'actuellement, ce qu'on appelle le post-féminisme, c'est toutes les réflexions queer autour justement de la déconstruction des catégories de sexe, puis de dire que les catégories de sexe, donc étant donné que c'est une construction sociale, c'est aussi une performance, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les théories de Judith Butler, on en a déjà parlé
à Squatel, qu'on performe des identités genrées, que ce n'est pas biologique, ça...
Des rôles sociaux de sexe qui nous font agir de telle ou telle manière. Ben, Coco, en appartenant à aucune catégorie de sexe, il va comme s'extraire des rôles sociaux de sexe, puisqu'il peut rentrer dans un rôle social masculin, dans un rôle social féminin. Et il montre un petit peu l'absurdité de ces catégories sociales de sexe-là, je trouve. Fait que c'est un peu la manière d'amener... La théorie queer est un petit peu complexe. Coco, c'est pas quelqu'un qui prône la théorie queer tout le temps, mais Coco, c'est un queer dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est, tu sais, je veux dire, il appartient au mouvement queer.
Par les expériences, justement, c'est pas tant des théories que par les expériences que ça va traduire cette réflexion-là.
Effectivement, c'est ça. Puis c'est de montrer que peut-être que... c'est ça, moi, je voulais quand même montrer un espèce d'éventail de qu'est-ce que peut être le féminisme puis de comment on peut le vivre. Coco, il est arrivé à sa réflexion queer par le féminisme, en fait. Ce qu'il dit à un moment donné dans le film, c'est « Le féminisme, ça m'a ouvert une porte qui m'a permis d'avoir plein de possibilités de réalisation de l'être que j'étais. » Fait que c'est ça, pour moi, c'est aussi de dire que le féminisme, c'est un mouvement de libération, puis la libération pour Coco, c'est comme ça qu'elle s'est passée.
Total.
Mais il y a juste le féminisme qui a pu amener la réflexion queer, en fait. Avant le féminisme, cette réflexion-là, elle se peut pas.
Parce qu'à partir du moment où, justement, il y a une réflexion sur la déconstruction
des comportements genrés, ben quand tu pousses la réflexion plus loin, ben c'est même les identités, justement.
Exactement.
C'est là que ça nous amène nécessairement. C'est bon. Peut-être une autre personne avant de passer en musique pour pas trop pour se donner...
Eh bien, l'autre personne, c'est Marco.
Oui, après ça, dans le fond, je vais te laisser y aller dans l'ordre que tu désires. Marco, allons-y, Marco.
C'est notre homme féministe, notre représentant de l'espèce masculine.
Qu'on entend parler d'ailleurs dans la bande-annonce. Oui, je me trompe pas, fait. Et un propos très... Il dit, en fait, je me souviens bien de mémoire, il dit « Moi, je considère que pendant les 10 ou 20 dernières années, j'ai été polluée par... mon esprit a été pollué par la... » Par la vision de la femme-objet.
Exactement. En fait, jusqu'au début de ma vingtaine, j'ai été polluée par la vision de la femme-objet. Puis c'est super intéressant. Ça nous amène plein de réflexions de qu'est-ce que le féminisme lui a apporté, comment est-ce que la déconstruction du patriarcat lui convenait aussi, parce que c'est quelqu'un qui supporte pas la domination puis qui aimait pas ça, le rôle de dominant que lui impose le patriarcat, fait qui était pas forcément à l'aise avec l'identité homme telle que le patriarcat la veut. Mm-hmm. Moi, personnellement, je suis pour un mouvement féministe mixte. Je suis pour des cellules non mixtes comme un Cisquatel, comme d'autres endroits, mais je pense vraiment que la prochaine étape du féminisme, elle s'en va en partenariat avec les hommes. Moi, je suis hétéro. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de féministes qui sont hétéros. Si je regarde beaucoup de jeunes filles, souvent, ce qui les effraie un peu, c'est de dire « Ah, mais moi, j'ai comme pas envie de faire peur aux hommes. J'ai pas envie de pas avoir d'hommes dans ma vie. »
C'est pas ça la question,
mais je veux dire, je pense quand même qu'il y a une partie de la réflexion qui doit se mener conjointement avec les hommes. Si tu veux la répartition égale des tâches, il faut que le gars il soit conscientisé. S'il n'est pas conscientisé, tu n'arriveras pas forcément à lui faire comprendre toutes les choses que tu veux.
Tu fais une île juste avec des femmes, c'est ça.
D'où la révolution parallèle, elle a eu lieu dans les années 70, mais ça s'est cassé la gueule, on est peut-être rendu ailleurs en ce moment.
D'où la nécessité d'avoir des camarades pro-féministes.
C'est ça. Moi, je suis pour le fait que les hommes se disent féministes, mais je sais que c'est un vrai débat, féministe, pro-féministe. Je pense qu'on est déjà tellement loin d'avoir ne serait-ce qu'un faible pourcentage d'hommes alliés à notre cause. Moi, je pense que pro-féministe, féministe, c'est un débat qui est un débat théorique. Margot, par exemple, je trouve ça super intéressant. Il a fait un fanzine qui s'appelait « Pourquoi je suis féministe » par un gars qui se télécharge gratuitement sur Internet. C'est super intéressant. C'est que des réflexions de gars faut quand même pas se leurrer, la majorité des gars féministes que je connais, ils ont eu des blondes féministes qui les ont conscientisées. Tu sais, il y en a quelques-uns qui ont eu vraiment l'espèce de...
Épiphanie tout seul.
C'est ça, ou de courage de s'inscrire en études féministes, mais pour se faire blaster la moitié du temps, parce que c'est pas évident d'être un gars en études féministes en plus, tu sais. Fait que là, c'est super cool, je trouve que c'est un outil très simple, très accessible pour les gars. Tu lis ça, ça peut forcément te faire te poser 2-3 questions à la fin de la lecture. Puis, la réflexion que Marco, il amène, c'est pas une fille qui peut l'amener. Il y a juste un gars qui peut parler aux autres gars. Pas que, mais il y a quand même des choses qui se font encore.
Une manière de le faire.
Exactement. Tu vois, il y a 3 ans, quand je l'ai rencontré, il faisait un atelier à Bakoff. Puis c'était un atelier sur comment on peut être un homme pas dominant. T'sais, comment nous autres, les gars, on peut réfléchir à essayer de changer notre comportement de dominant. Puis c'était un atelier non mixte entre gars. Moi, écoute, je trouve ça incroyable, puis j'ai vraiment hâte qu'il y ait d'autres gars qui fassent ça. Là. Je pense que il y a une partie, en tout cas, du mouvement féministe qui, selon moi, devrait aller dans ce sens-là. Fait que c'est ça. Fait que le deuxième personnage,
C'est la remise en question, justement, des statuts privilégiés qu'on pourrait pas transférer, mais faire des parallèles avec, par exemple, un groupe non mixte de personnes blanches qui réfléchirait à comment tes privilèges, des fois, t'en es même pas conscient, mais d'en discuter. C'est ça, ça peut, si tu es hétérosexiste, etc.
Exactement.
Puis c'est ça qui est intéressant avec le féminisme aussi. C'est ça qu'on parlait pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense, avec Evelyne, sur la sensibilité féministe qui permet justement de pas seulement penser les rapports entre les hommes et les femmes, mais seulement les rapports
de domination. Tout à fait.
Ça, c'est intéressant.
Tu vois, Coco, justement, il a déjà fait un atelier avec une de ses amies du CRAC, le collectif de recherche pour l'autonomie collective, justement, entre blancs, sur les privilèges de blancs par rapport aux groupes racisés. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je trouve que c'est quand même intéressant de commencer à avoir cette démarche-là.
C'est clair. C'est clairement nécessaire parce qu'il y a où la coupe aux lèvres. On va aller en musique, Evelyne, avec qu'est-ce que je nous ai préparé de bon? C'est Lila Dante, je me trompe pas.
Oui, la pièce La Cama des Piedra. Voilà.
En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón.
De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de a de veras. Corazón, ¿por qué no amas?
Subí a la sala del crimen. Le pregunté al presidente que si es delito quererte.
Que me sentencia la muerte. Corazón, ¿por qué no amas?
Y el día que a mí me mate, que sea de 5 balazos y esté cerquita de ti.
Retour sur CKIA FM 88,3 en compagnie de l'équipe d'Insiquatel. On continue notre entrevue avec Rosane qui me trouve bien comique avec ma voix radiophonique. J'essaie de pas faire Radio-Canada, mais ça marche pas. J'ai écouté une entrevue en rediffusion puis ça marche pas, mais c'est pas grave. On continue à parler des personnages qu'on retrouve, en fait des personnes qui sont devenues des personnages par le biais de la caméra, de exactement, l'œil de Rosane. Tentation féministe. Donc, de qui tu veux nous parler?
Ben alors, donc, les 3 autres personnes qui incarnent le film Attention féministe et la jeunesse féministe québécoise, c'est Barbara, Geneviève et Pascal. Barbara, probablement que beaucoup d'entre vous, ouais, si vous écoutez Insiquatel, vous la connaissez, c'est Barbara Legault qui a été pendant très longtemps à la FFQ, qui a été celle qui a, en 2003, à faire s'unir pour être belle, ouais, je pense, oui, le premier rassemblement, ouais, puis qui a été aussi à l'origine avec d'autres, bien sûr, de Toujours Rebelle en 2008, qui s'est occupée pendant longtemps de la Marche mondiale des femmes, bref. Notre militante radicale connue féministe et reconnue, c'est ça, ouais, de Montréal, Barbara, qui était d'ailleurs à Québec il n'y a pas très longtemps pour travailler au collectif.
Oui, oui.
Fait que Barbara, ben c'est ça, je pense que c'est la porte-voix du mouvement féministe radical un peu plus, tu sais, elle nous parle de Toujours Rebelle, elle nous parle de comment est-ce que, c'est ça, les féministes radicales prennent position dans la société.
Et aussi dans le grand champ des féministes en général.
C'est ça.
Justement.
C'est ça. Elle est plus théorique, elle est plus. Elle est très en colère,
très
Barbara. Elle est super articulée. Fait qu'elle est comme. C'est ça. C'est un peu plus. Elle est aussi un peu plus âgée que les autres personnages avec Marco. Fait que, tu sais, c'est comme plus la voix de l'expérience. La militante radicale, c'est mm-hmm. ça. Il y a Geneviève qui, elle.
Est-ce que c'est elle qu'on voit plus en parade de mode dans le.
C'est la féministe à talons. Exactement.
Okay. Mais non, mais c'est super intéressant. C'est bon, oui.
La féministe maquillée et à talons. Geneviève, en fait, elle était intervenante dans une maison de jeunes dans le quartier Bordeaux, quartier Ville à Montréal. Puis en 2005, je pense, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes de violence. Il y avait plusieurs viols sur des petites filles. Fait que là, ils ont eu une aide pour faire une action avec les jeunes filles, pour essayer comme de leur redonner l'estime d'elles-mêmes, tout ça. Puis à la fin de cet atelier-là, où ils discutaient de violence, d'estime de soi, tout ça, ils leur ont demandé, ben, si on devait faire une activité ensemble, ce serait quoi que vous aimeriez qu'on fasse? Et les petites filles ont dit un magazine. Et oui. Parce que elles amenaient tout le temps leur magazine, tout ça, tout ça. Puis là, Geneviève s'est vraiment rendu compte du poids et du pouvoir qu'avaient les magazines sur les petites filles.
Comme d'aujourd'hui.
Ouais.
Ou adorable.
Adorable. Il y en a d'autres aussi, en tout cas. Cool.
Oui.
En tout cas, bref. Mais c'est assez horrible, le discours. Oui, adorable,
ça avait fait la manchette parce que, en fait, ils ont été obligés de c'était, je pense qu'ils disaient, supposons que c'était à partir de 10 ans, puis ils ont été obligés de le monter parce qu'il y avait un article vraiment sur les 10 bons trucs pour faire une bonne fellation. Donc, beaucoup de bave, une grande bouche, etc. Ça avait vraiment fait les manchettes, mais scandale adorable.
C'est comme dans Sex Inc. À un moment donné, il y a un extrait dans le film de Sophie Bissonnette sur l'hypersexualisation des ados où elle te montre des images. C'est comme à une conférence, puis ils te montrent des images, puis ils disent « Essayez de définir quelles sont les images des magazines pour ados et des images porno. » Et personne n'est capable de savoir qu'est-ce qu'une image d'un film porno et qu'est-ce qu'une image du magazine pour ados.
Ça en dit long. C'est donc, incroyable. Les filles avaient envie de faire une revue.
C'est ça. Fait
à leur image, dans le fond.
Exactement. Ben, oui, c'est ça qu'elle disait. Après, tu sais, avec une conscientisation de petite fille de 14 ans, là, mais là, elle a réussi à aller chercher du financement, Geneviève, puis elle a fait 3 éditions du magazine authentique.
Oui, on en avait parlé à Squatel,
ouais.
Ah, c'est elle qui d'ailleurs
a fait Authentique.
Et son équipe de jeunes.
Mais beaucoup, elle, je te dirais quand même. Elle a pris beaucoup sur ses épaules, là. Mais en tout cas, moi, j'ai été proche d'elle. Elle a eu d'autres filles qui l'ont aidée, tout ça, mais ça a été quand même... c'est ça, elle a porté beaucoup sur ses épaules.
C'est vraiment une belle initiative, ça.
Super intéressant. Ouais. Moi, je les ai vues, les petites filles, je veux dire... les petites filles, les ados, là, je dirais, elles avaient entre 12 et 16 ans. Uh-huh. C'est pas vraiment des petites filles, c'est des ados.
C'est des adolescents.
Exactement. Et c'était super intéressant. Parce que quand même, puis elle le dit à un moment donné dans le film, c'était toujours un peu sur la ligne. Ils faisaient quand même des trucs genre conseil mode, mais pas conseil mode, genre comment être une pitoune en 2 leçons. Puis l'axe principal de Geneviève, c'est donner confiance aux filles, leur donner l'estime d'elles-mêmes. Parce que, en tout cas, il y a une des remarques du film qui est celle-ci, mais je la trouve excellente, c'est, tu sais, à partir du moment où les filles arrêtent de se comparer au modèle ou de se dire qu'il faut qu'elles soient le modèle et donc mettent toute leur énergie pour ressembler au modèle des pitounes des magazines, donc mettent toute leur énergie dans le maquillage, faire des régimes. Les filles de son magazine ont fait des régimes. Hein. Tu sais, je dirais, à 16 ans, il n'y a pas une fille qui avait fait un régime actuellement au Québec. Là. Mm-hmm. Elle dit, à partir du moment où tu arrêtes de mettre ton énergie à essayer de ressembler à un modèle qui n'est pas toi, eh ben, tu mets toute ton énergie à te cultiver, à faire du sport, à remplir ta tête, à remplir ton être de bonnes énergies.
Développer ton potentiel.
Exactement. Fait qu'elle axe beaucoup là-dessus, puis elle a toujours avec une consultation féministe, vraiment. T'sais, elle leur dit qu'elle est féministe, elle leur explique c'est quoi le féminisme. C'est beaucoup des filles, c'est beaucoup des immigrantes de première génération, ouais, c'est ça. Genre, elles sont avec leurs parents entre, tu sais, genre, à l'enfance ou au début de l'adolescence, là. C'est un quartier très... avec beaucoup d'immigrants, Bordeaux, quartier-ville. Fait que t'as des filles de partout. Puis elles se retrouvent autour de l'estime de soi puis du féminisme. Fait que c'est quand même super intéressant parce que c'est... Tu sais, c'est des thèses que Geneviève leur amène, que personne d'autre leur amènerait. Puis tu vois, entre autres, il y a une des petites filles qui disait qu'à un moment donné, elle était super mal dans sa peau, elle était à veille de se suicider, puis c'est grâce au magazine qu'elle a récupéré l'estime d'elle-même et tout ça. Fait que je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que le discours des médias en ce moment pour les jeunes filles, c'est vraiment pas cool.
Non, c'est très fort. C'est très, très fort. Vraiment. Puis aussi, comment, ce qui est intéressant, justement, avec le fait que tu dises que c'est une féministe à talons, ou justement, qui va dire qu'être féministe, ça veut pas, c'est pas le retour d'un discours moralisateur, de dire, ben non, c'est mal d'avoir un décolleté, ou, tu sais, exact. T'sais, c'est juste de trouver
l'équilibre. Elle est super là-dedans. Sexy, Geneviève, et elle s'assume comme ça.
Mais c'est ça.
Et en même temps, elle est quand même capable de s'affirmer comme féministe. C'est ça. Moi, je trouve ça chouette parce que sinon, les gens s'imaginent que c'est juste une manière d'être féministe. Ben non. Puis tu vois, elle fait un certificat d'études féministes. Tu sais, elle a quand même la tête sur les épaules, puis elle comprend aussi la théorie, mais tu sais, elle adapte à sa manière.
Ça fait exploser un peu, justement, les, les espèces de modèles ou de...
De stéréotypes.
Exactement,
qu'on
pourrait voir. Puis c'est intéressant de le voir comme ça. Puis le dernier personnage?
C'est Pascal. Pascal okay. aussi, c'est une étudiante. Elle est rendue en art visuel avant, elle était en études féministes. Pascal, je l'appelle tout le temps la fée féministe.
La fée?
Ouais, la fée féministe.
fée.
Parce qu'on a fait un green screen à un moment donné pour le film, puis elle est venue avec ses ailes de fée qu'elle avait faites elle-même. C'est ça, c'est une artiste elle aussi, elle est super créative. Je la trouve très bonne pour communiquer le discours féministe, Pascal. C'est pas quelqu'un qui va jamais te juger, c'est quelqu'un qui est super ouvert, super... je dirais, ben, elle habite dans une colocation avec 6 personnes, elle est vraiment genre tout le temps entourée de plein de monde, puis... c'est une des personnes qui, je trouve, vulgarise le mieux le discours de manière très accessible et sans jamais juger les gens. Je sais que moi, par exemple, c'est un discours qui est super émotif pour moi, le féminisme. Si tu me parles dans la rue féministe, tu vas pouvoir facilement te sentir agressée. C'est pour ça que je fais un film, parce que c'est la meilleure manière pour moi
de parler. Tu parler les gens.
Exactement, tout à fait. Mais Pascal, elle est pas comme ça, tu vois. Elle, en tout cas, je trouve qu'elle a une belle manière de rendre ça agréable, accessible et finalement sans se prendre au sérieux, tout en te montrant comment est-ce que c'est un discours émancipateur.
Mm-hmm. Fait que ça fait vraiment plusieurs discours croisés. En tout cas, je sais pas pour vous à la maison, mais moi, ça me donne certainement le goût de voir ce film. Et en attendant de voir le film, il y a un petit teaser sur Internet, un blog. Est-ce que tu peux nous en parler? Un blog qui est associé au film pour des gens qui ont vu le film La domination masculine, dont on a parlé abondamment l'année passée, ainsi soit-elle. On se souvient qu'il y avait un blog aussi qui était associé où il y avait différents débats, où en tout cas, l'idée était justement de pas s'arrêter au film, mais de faire justement susciter le débat, que les gens interagissent. C'est ce qu'on trouve aussi un peu pour toi, l'inspiration, pas loin d'être ça?
Tout à fait. C'est vraiment le film qui m'a donné inspiration. Moi, je sais qu'avant que le film sorte et que j'aille le voir, pendant 3 mois, j'ai vraiment suivi le blog. Ça m'avait donné full le goût d'aller le voir. Il mettait plein d'extraits en ligne. Je pense aux 2 semaines ou aux 3 semaines, il mettait un extrait. Puis là, t'avais vraiment envie de le voir. Moi, tu vois, le seul hic que j'avais vu, c'est que quand j'ai vu le film, j'avais déjà vu les 3/4 du film, parce que j'avais vu tous les extraits. Ouais, puis là, je disais, ben là, j'ai déjà tout vu. Moi, je mettrais pas d'extraits de ce qu'il va y avoir dans le film.
Okay.
Je vais mettre d'autres extraits. Puis en même temps, c'est super parce que j'ai quand même beaucoup tourné. Je pense qu'on a tourné près de 100 heures, puis le film fait 50 minutes.
Donc,
et
tu
on
peux
a
te faire plaisir, puis mettre
c'est
des
ça.
Passages que
il y a plein de
couper.
Choses qu'on a dû couper. Puis là, j'étais là, hey, mais c'est terrible, faut vraiment parler de ça, mais on pouvait pas parce que ça marchait pas dans la structure générale du moyen métrage. Fait que là, ben, l'idée, c'est un peu ça, c'est de donner une deuxième vie à toutes les rushs qui ont été coupées. Puis en plus, chaque scène qui a été coupée amenait quand même un débat. Fait que d'amener aussi
un
le débat
sujet,
autour de
thème.
Ça. Comme par exemple, tu vois, on avait tourné autour des événements du 20e anniversaire de la Polytechnique. Ce sera pas finalement dans le montage final, mais je sais que je vais mettre l'extrait en ligne autour des événements de la Polytechnique le 6 décembre et amener le débat, surtout que c'était vraiment le 20e l'an dernier, fait que c'était super. Il y a un extrait de la pièce de Paul Pelletier qu'elle a faite sur Polytechnique et c'est super intéressant. Fait que ça va être en ligne début décembre pour ceux qui sont intéressés.
Teaser.
C'est ça, teaser. Puis l'idée, ça va être aussi d'amener comme, tu vois, en 4 ans, j'ai lu tellement de textes. Fait que ça va être essayer d'amener un petit peu un condensé des meilleurs textes que j'ai lus, des liens vers. J'ai aussi découvert tellement de sites internet, je pense que j'ai genre 1000 liens vers des sites internet féministes. Fait que ça va être d'amener les meilleurs. Puis chaque personnage, Barbara, Coco, Marco, Geneviève, Pascal, vont avoir leur page sur le blog pour eux autres aussi alimenter le débat. Fait que tous les extraits qui vont être liés à eux vont être mis sur leur page.
Commenter.
Et eux, ils vont pouvoir comme commenter puis amener comme, tu vois, tous les événements auxquels ils participent, toutes les infos qu'ils veulent nous donner sur le féminisme, ils vont les donner sur leur page, en fait. Donc, ça va être comme un espèce d'assemblage de textes, de vidéos, puis d'événements féministes. C'est comme un espèce de porte...
Le portail, mais aussi ça te permet de partager, justement, comme tu dis, ça peut être peut-être frustrant de dire, bon, mais dans ma structure générale de film, je devais entrer ça et ça, mais là, dans le fond, tu vas pouvoir vraiment partager le fruit de tes recherches, tant au niveau vidéo, site internet, que texte avec tout le monde. C'est vraiment intéressant. Ça donne comme une deuxième, une troisième, même une quatrième vue au film.
Exactement.
Qui a été coproduit d'ailleurs par Canal+, si je me trompe pas, si on veut conclure
Exactement.
Sur ce premier film,
Exactement.
Quand il y en a un deuxième dont on veut parler. Quand est-ce que ça sort en salle?
Ben, ça sort idéalement autour du 8 mars, début mars, donc. Okay. Il y aura probablement un lancement à Québec, un lancement à Montréal. Ouais. Après ça, j'espère qu'il va aller au Festival du film sur le droit de la personne de Montréal, mais bon, comme tout festival, on peut pas s'attendre
tu
à autre chose que ce que le jury va décider. Après ça, ben, j'espère qu'il va aussi aller en salle, je ne sais pas
tournée.
Où, mais en tout cas, je veux essayer de l'envoyer. Puis, pour Canal Vie, il est à l'horaire 2011-2012.
OK.
Donc, probablement...
Donc, c'est quand même une reconnaissance aussi, c'est intéressant.
Oui, moi, oui. J'ai vraiment eu la chance avec ce film-là. On m'avait dit, si tu fais un film sur le féminisme, oublie ça, t'auras jamais d'argent. Là, si tu mets le mot féminisme dans une demande de subvention, personne ne donnera de l'argent. Puis j'ai eu toutes les demandes que j'ai faites. Vraiment. Le calque a appuyé en développement, en production, le fonds Rogers. Rogers a donné de l'argent pour produire un film sur le féminisme. Et Canal+ aussi nous a appuyé depuis le début. Vraiment fort. Fait que quand même, on a été chanceux. On a eu des bons moyens pour travailler. Ça a été comme un film professionnel, comme on dit.
Ah, ben c'est super. Il y a un autre film dont on va vous parler après la prochaine chanson, The Sounds. C'est de Queen of Apology. Non, c'est...
Painted by Numbers.
Oui, c'est ça. Painted by Numbers. Une chanson que j'ai dédiée à Anne-Marie Turmel à Montréal, qui sera là à Rimouski dimanche pour la Marche mondiale des femmes.
Oh yeah!
Vous êtes toujours, et oui, sur les ondes d'une station francophone, c'est la station CKIFM 88,3, celle qui est la plus à gauche sur la bande FM. Et on est toujours accompagné de Rosane. Cette fois, on parle d'un film qui s'appelle Si à la vida. Oui, à la vie, qui a été réalisé en fait en août dernier au Mexique. Donc, Rosane, tu as réalisé ce film avec Guillaume par le biais du cabaret Kinomada. Peux-tu nous en parler brièvement?
Brièvement. Kinomada, c'est un organisme de Québec qui fait des films avec des collaborateurs en Amérique latine, Pérou, là on est au Mexique, il y a aussi du monde de Cuba. Là ils partent au Chili dans une semaine représenter Québec au Forum des cultures. C'est un organisme dont le siège est à l'établi, au-dessus des salons d'Edgar, pour ceux qui connaissent l'établi. C'est une partie de la gang des déclencheurs qui a créé Kinomada. Ça. Donc il y a Julie, Yannick, Mickaël, Philippe, Émilie. Puis voilà, c'est ça. Fait qu'ils sont partis en 2009 une première fois au Pérou. Cette année, en 2010, ils ont fait le cabaret à Québec. auxquelles on était au moins une quarantaine à avoir participé. Et il y avait du monde, justement. Ils ont fait venir à ce moment-là du monde du Pérou, du Mexique, de Cuba. Puis là, on est allé au Mexique.
C'est ça.
En fait, c'est Locage qui représentait le Québec à la Conférence mondiale de la jeunesse et qui a invité Kilomada à faire partie des... En fait, des
observateurs,
non, de la représentation du Québec, en fait. Okay. On était comme un peu les représentants artistiques de qu'est-ce qui se fait au Québec. Okay. Donc là, pendant une semaine, on était à León, qui est une ville à 5 heures au nord de Mexico. Puis on a fait des films avec des Mexicains, ce qui était vraiment incroyable.
Puis là, vous avez décidé de faire un film, c'est ça, Oui à la vie, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est sur le débat sur l'avortement.
C'est ça, exactement. Moi, j'avais décidé de ne pas faire un film sur le féminisme parce que je fais tout le temps des films sur le féminisme. mais là, on est comme arrivé. La conférence mondiale commençait le lundi. Puis le dimanche, dans le centre-ville de León, il y a eu une manifestation pro-vie avec 4000 personnes. Okay. C'était incroyable.
Des jeunes, des vieux, des...
Beaucoup de jeunes, principalement des jeunes. Okay. Ben, on le voit sur le film qui va d'ailleurs être bientôt en ligne sur YouTube. Et j'ai plein de jeunes qui criaient « Oui à la vie! Oui à la vie! Oui à la vie! Oui. » Puis j'étais là, ben là... Puis là, j'avais mon appareil avec moi, puis là, j'ai fait « Ok, ben, je vais filmer, tu sais. »
Oui à la famille, avec un homme et une femme aussi.
Ouais, parce qu'il y a aussi des lois qui sont passées début janvier. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a le Mexique, c'est 32 États.
Peut-être le contexte, c'est ça, peut-être pour orienter ce que je voulais dire, c'est le contexte qui est spécifique au Mexique sur la question de l'avortement. Parce qu'en Amérique latine, l'avortement est interdit, c'est ça. Sauf au Mexique. C'est mais ça. Comment ça se passe dans les faits?
C'est le seul pays d'Amérique latine où l'avortement est légal, c'est le Mexique. Mais le Mexique, c'est un État décentralisé. Donc, c'est une république avec 32 États. Donc, l'État de Mexico, depuis avril 2007, a rendu l'avortement légal. Et la Cour suprême l'a validé en août 2008. Mais c'est super conservateur. C'est encore très, très, très catholique, le Mexique. Fait que sur les 32 États de la République, il y en a 18 qui, depuis cette loi-là, ont juste, en fait, durci leur législation pour contrer, en fait, le droit à l'avortement.
Ce qui est comme anticonstitutionnel.
Ce qui est totalement anticonstitutionnel, en fait. Finalement, puisque la Constitution dit que c'est légal. Fait que eux, dans 18 des 32 États, dont l'État de Guanajuato, où on était, où León se situe, ils ont mis en place des lois qui défendent le droit à la vie à partir de la conception. Donc, à partir de là, ben, ils sont forcément anti-avortement. Et à Guanajuato, la loi a changé début septembre grâce à la mobilisation populaire, mais au moment où on y était, donc au moment où il y avait les manifestations, au moment où on a filmé, les femmes risquaient jusqu'à 35 ans de prison pour homicide infantile. Pas pour l'avortement. L'avortement, elle risque jusqu'à 8 ans de prison, mais là, en fait, c'est les femmes, mettons, qui se retrouvaient à... parce qu'elles n'ont pas une forte éducation sexuelle, donc ils se rendaient pas forcément compte qu'elles étaient enceintes et qu'il y avait soit des avortements spontanés, soit des fausses couches, mais qui avaient l'air d'être bizarres pour le personnel médical, et qui souvent étaient des femmes pauvres, avec pas beaucoup d'éducation indigène, pour la plupart violées. Elles se faisaient comme dénoncer pour
soi-disant... Et emprisonnées, parce que c'est ça que j'allais dire, l'État peut pas... C'est ça, il y a dénonciation, il y a délation, visiblement, pour que la personne se retrouve...
Délation des médecins, délation des voisins, délation des infirmières, qui disent qu'elles ont comme tué leur bébé, c'est ça qu'ils appellent homicide familial, ou tué leur enfant. Il y avait deux cas sur les 7 femmes qui étaient emprisonnées, 2 cas d'enfants qui étaient morts à la naissance. Et ces femmes-là avaient 35 ans de prison.
Okay.
C'était complètement incroyable. Puis c'est ça, un peu partout, il y a 140 femmes qui sont en ce moment incarcérées, 33 femmes qui sont incarcérées au Mexique, 140 qui sont en procès actuellement pour avortement ou pour mort de l'enfant, soit pendant la grossesse, soit à la naissance.
OK, donc homicide involontaire, homicide familial, c'est ce que
tu disais. C'est ça. Et ça, c'est pour essayer de lutter contre la loi qui a mis en place. Parce que l'État de Mexico, en fait, est un État libéral dans un pays super conservateur. Depuis janvier, le mariage homosexuel est possible à Mexico. Mm-hmm. Et depuis avril 2007, donc, l'avortement est légal. Et c'est le seul pays d'Amérique latine qui le fait. Et chaque année, il y a quand même 40 000 femmes qui se font avorter dans l'État de Mexico parce qu'ils acceptent les femmes de tous les États. Ce qui est quand même beaucoup, mais en même temps, les chiffres nous montrent bien qu'à chaque fois que l'avortement est légal, il y a finalement moins d'avortements qui se font, et surtout dans des meilleures conditions pour les femmes.
Ben oui, c'est ça nécessairement. Puis c'est ça, en tout cas, je veux juste revenir sur le fait, justement, la délation que je trouve assez incroyable, parce que s'il y a des médecins et des infirmières qui vont justement dénoncer ces femmes-là, ça veut dire qu'elles se sont tournées vers eux pour des soins médicaux.
Exactement.
Ou quoi que ce soit. Donc vraiment en situation de fragilité. Puis...
Mais c'est super incroyable. En tout cas, pendant qu'on faisait le film, on a, tu vois, la première partie du film, c'est vraiment pour essayer d'aller déconstruire le discours, et pour la majorité des jeunes, et même des gens, là, je veux dire, l'avortement, c'est un meurtre. Moi, je veux dire, j'en revenais pas, même les amis avec qui j'étais, avec qui on faisait des films, qui étaient des gens super ouverts. La majorité voulait pas se marier, étaient dans des couples ouverts, ce qui est quand même pas couple libre, pas ouvert en tout cas.
À côté.
C'est ça. Mais en tout cas, pas marié. Là, c'est ça. C'était quand même des jeunes qui faisaient des films, tout ça. Quand je leur parlais de l'avortement, personne pouvait être pour l'avortement. Okay. Personne n'est contre la vie, tu comprends?
Ouais.
Non, c'est ça. Personne n'était contre l'avortement, mais personne n'était contre la vie non plus. Genre, leur première réponse était « Oh, mais je suis quand même pour la vie. » Puis quand je leur disais « Mais toi, tu t'es déjà fait avorter. » J'ai cherché une jeune fille qui se serait fait avorter, j'en ai pas trouvé. Il y a personne qui pouvait ouvertement dire qu'il s'était fait avorter. Fait que là, je disais toujours « Bah moi, la majorité de mes amis s'est fait avorter, là. »
Pour essayer de briser
le... Ouais. Puis là, tout le monde me regardait, genre. Et vraiment, là, c'est encore extrêmement tabou comme sujet. Je sens que c'est... T'sais, en tout cas, ça m'a vraiment rentré dedans de discuter avec les gens, de parler beaucoup, parce que je pouvais pas parler avec les mêmes arguments que je parle au Québec. C'est vraiment pas la même chose. Le poids de la religion catholique est encore extrêmement important, et la religion catholique te dit que ça, c'est un meurtre. À partir de la conception, l'enfant naît.
L'enfant naît à la vie, c'est ça, dans le ventre de sa mère.
Donc les quelques femmes qui décident de se faire avorter, elles vivent l'opprobre. Il y a comme un gars qui nous a raconté à un moment donné.
Ostracisme.
Ostracisme, puis poids de la culpabilité. Dans nos entrevues, un des pro-vie, là, il disait, ben moi j'ai juste une amie qui s'est fait avorter, puis elle s'est suicidée tellement c'était difficile à porter, tellement elle pouvait plus vivre parce qu'elle avait commis un meurtre, tu sais.
Mais quand t'es pour la vie, la femme qui se suicide, ça va, parce que c'est la sentence.
Non, ben, ils trouvaient ça terrible qu'elle soit suicidée, mais eux, ils disaient, moi, si j'ai une amie qui tombe enceinte, je vais tout faire pour qu'elle retombe, parce que sinon, je sais qu'elle sera plus capable de vivre après. Puis en tout cas, l'opprobre social là, est incroyable contre les femmes qui se font avorter. Là, puis tu vois, quand on était là, il y a eu une manifestation pro-avortement, il y avait 400 personnes.
Oui, c'est ça que je l'ai demandé.
Il y en avait 4000.
Oui, c'est ça, les forces en pouvoir. 40 000 pro-vie, 400 pro-choix déclarés
dans la
rue.
Et dans les 400, il y en avait qui venaient de Mexico. Tu sais, genre, ils avaient fait venir les bataillons des organisations de défense de droits de Mexico. Okay. Fait que c'est quand même encore... Ça passe encore très mal.
Mais tout à l'heure, tu nous parlais des 8 femmes qui ont été emprisonnées, puis je pense qu'elles ont été libérées. C'est donc ça. Il y a quand même eu un mouvement.
C'est parce qu'il y a quand même eu les organisations de défense de droits qui se battent depuis, parce qu'il y en a que ça fait 3 ans qu'elles s'est arrêtées, là, depuis 2007, qu'ils ont durci les lois tranquillement et que donc des femmes se sont faites arrêter. Et l'ONU aussi est venue faire une commission d'enquête, et je pense que sur la pression populaire, la pression de l'ONU, ils ont changé la loi quand même. Fait que là, désormais, c'est 8 ans qu'elles risquent, les femmes, et ils ont libéré les 7 femmes qui étaient emprisonnées.
Okay.
Fait que c'est quand même une belle victoire.
Sous la pression populaire, donc ça, c'est intéressant.
C'est ça. Mais en même temps, je sais pas si la pression populaire, elle est majoritairement pour ou contre dans cet état-là. Fait qu'ils ont quand même plus écouté les organisations de défense des droits et l'ONU que la majorité des intégristes qui descendent dans la rue et qui sont importants. Tu vois, le samedi suivant, la manif que j'ai vue, parce qu'en fait, la grosse manif était là à cause de la conférence mondiale de la jeunesse de l'ONU et pour défendre les positions pro-vie et critiquer l'ONU, en fait, qui serait comme une organisation...
Là, pour détruire et répandre des messages de haine...
Envers les valeurs familiales et la jeunesse, ouais. Exactement. Et tu vois, le samedi souvent, quand je suis allée à l'église, dans le centre-ville de Léon, le prêtre, il faisait encore un discours anti-avortement, anti-mariage gay, qu'il fallait continuer à rester mobilisé. Et l'église était pleine un samedi soir à 19h.
Ouais. Ah, c'est ça, c'est une autre... mais c'est intéressant, je trouvais ce que tu disais, justement, je peux pas discuter ou argumenter de la même manière qu'ici. C'est comment tu... Comment t'en discutes?
Faut d'abord que tu dises que t'es pro-vie. Parce que si dès le début tu dis non, mais moi, je suis pro-avortement, écoute, les gens, tu les choques, quoi. Et des fois, j'essayais, ça faisait juste rire, mais je me rendais compte que mon discours, il passait pas.
Ouais. Ça dépend de quoi ton objectif. Si tu veux juste, comme, donner une claque dans la figure, tu peux dire, moi, je suis pro-avortement, mais si tu veux un dialogue puis essayer de convaincre, c'est peut-être par des moyens plus détournés.
Exactement.
Puis là, ce film-là, est-ce que vous l'avez projeté là-bas ou ça a été juste tourné?
Ouais, on l'a projeté là-bas, mais tu vois, on l'a projeté pendant la conférence, mais il n'y avait pas grand monde, c'est ça le truc. On l'a projeté pendant la conférence mondiale de la jeunesse, c'était genre à midi la projection, on voyait rien parce qu'il y avait de la lumière partout. Mais on l'a reprojeté le soir, par exemple.
Ça, je me demandais les réactions, même si les gens n'ont pas assisté, les gens ont dû être au courant du contenu du film.
Ceux qui l'ont vu, c'était quand même beaucoup mes amis mexicains, puis qui avaient déjà suivi. Mais quand même, tu vois, la plupart, quand le film a terminé, on dit, ah, mais c'est cool, ça me fait voir les choses différemment, puis ça me donne envie d'en savoir plus. Parce que la féministe qui parle, il y a comme une féministe qui parle au milieu du film, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Tu sais, elle dit, ils nous font des lois pro-vie puis des lois anti-avortement, mais qu'est-ce qu'ils font pour aider les femmes pauvres? Qu'est-ce qu'ils font pour aider les enfants qui sont dans la rue? Parce que la situation, quand même, au Mexique, est pas géniale. Là. Les femmes, elles vivent encore beaucoup de violences, c'est super macho. Les femmes indigènes, particulièrement, je veux dire, elles sont dans des situations d'extrême pauvreté, souvent analphabètes, elles n'ont pas accès à l'éducation, peu accès au système de santé. Donc, ils sont des tas d'enfants dans la rue. Ouais. Je veux dire, on se le cachera pas, quand même, il est le Mexique est reconnu pour tout le narcotrafic et aussi le trafic des femmes. Je dirais, Ciudad Juárez, c'est quand même une des villes les plus violentes pour les femmes.
Oui, parce qu'il y a le féminicide depuis très longtemps.
Exactement.
Là, des meurtres de femmes, des viols de femmes jamais retracés, des corps qui disparaissent.
Et par rapport à ça, on fait rien, mais par contre, l'avortement, attention, attention. Fait que, tu sais, c'est super hypocrite comme discours, comme à chaque fois. C'est juste un instrument de contrôle des femmes. Puis ça, ben, moi, je pouvais pas l'amener, mais la féministe mexicaine, elle l'amenait très bien. Et ça, j'ai senti que mes amis mexicains, ça les avait fait quand même un peu réagir. Fait que ça, c'était cool. Tu vois, d'ailleurs, j'ai pris contact avec plusieurs organismes de défense de droits là-bas et on veut vraiment leur envoyer le film parce que je pense qu'il va être encore plus utile au Mexique qu'ici, là.
Mm-hmm. C'est un bon outil de sensibilisation, en tout cas. Puis c'est intéressant, justement, de ramener l'analyse, de ramener le discours. T'es pour la vie, OK, mais quelle vie?
Exactement.
Dans le fond, tu dis qu'il faut sauver ces enfants-là, mais après ça, c'est quelle vie qui est réservée à ces enfants-là? Puis est-ce qu'il y a des écoles qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a des services publics pour les femmes, etc.? Fait que c'est intéressant de l'amener comme ça aussi.
Tout à fait, qui va s'en occuper après.
Oui, oui, c'est un bon argument. Wow! Puis comment... Tu parlais de YouTube tantôt, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça, nous, à Québec?
Ben, je vais le mettre probablement en ligne avant la fin de la semaine sur mon Facebook.
C'est bon!
puis ça va être sur Vimeo, puis sur YouTube.
Puis peut-être... sur le blog
Attention féministe.
Non, peut-être
ouais, c'est
pas.
Ouais, c'est ça, ça va comme être un peu compliqué.
Pas mélanger les choses, mais sur le blog d'Ainsi Squat, le blog non, c'est pas un blog, tout à l'heure on précisait
sur
que nous c'est
Internet,
un site web qu'on a. Et oui.
Oui, mais on va pouvoir mettre le lien sur le site web d'Ainsi Squatel, ainsisquatel avec des traits d'union.org.
C'est bon, c'est super. OK, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce film-là?
Non,
mais c'était super intéressant. Je trouve ça intéressant de le ramener comme ça, vraiment. OK, ben on va en musique. Merci, Rosane, pour ta
merci
générosité.
Merci,
Hélène.
Merci,
de avoir partagé toutes ces informations-là, certain.
La pièce musicale que j'ai préparée, ça s'appelle Trembler, et c'est du groupe français Harold, et c'est pour préparer le calendrier qui va suivre au sujet de la Marche mondiale des femmes.
Oh yeah! Dans la rue!
Sur la place de l'église en feu, une barricade de pneus crevés nous entourait, nous protégeait, nous encourageait. Les projectiles que nous lançaient, les forces armées sur nous n'avaient aucun effet. Aucun effet. La statue du roi Albert Ier vient d'être décapitée par un obus, de mortier. Les poings levés, l'œil émerveillé, nous nous sommes mis à danser, à chanter, à rigoler. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'âge d'être.
sur les ondes de CKIA FM. C'était Ainsi soit-elle cette semaine. Et c'est la semaine de la Marche mondiale des femmes, comme on vous a dit à plusieurs reprises déjà. Alors, rapidement, un petit calendrier, sortez vos agendas. Donc, mercredi le 13 octobre, rassemblement à 18h au parc Georges V en face du manège militaire. C'est une marche mixte sur le thème « Bien commun et accès aux ressources ». C'est une marche symbolique où il faut être habillé en noir avec des gants rouges si possible. Et les personnes vont marcher, on va marcher jusqu'à Place d'Armes au coin des rues du Trésor et Saint-Louis. Jeudi le 14 octobre, c'est une marche sur la violence envers les femmes, contre évidemment. C'est un rassemblement mixte à 10h30 dans le stationnement en face de la gare du Palais, près de la Fontaine. La marche va débuter à 11h vers le parvis de l'église Saint-Roch et là, il va y avoir une activité. Jeudi le 14 octobre également, il y a une soirée cabaret non mixte, donc femmes seulement dès 18h au bar coop L'Agité. Donc c'est en début de soirée, un genre de 6 à 9, le bar coop L'Agité situé au 251 rue Dorchester. Vendredi le 15 octobre, le thème de la journée c'est paix et militarisation. Le rassemblement est à 17h au parc Georges V encore en face du manège militaire. C'est une marche mixte qui va partir vers 18h et les femmes d'ailleurs de la marche mondiale nous disaient que elles n'étaient pas les bienvenues au parc Georges V. Alors malgré tout, ça va se passer dans ces coins-là. Ensuite, samedi le 16 octobre, le thème de la journée, c'est « Droits des femmes autochtones ». Ça va être une pièce de théâtre qui va être présentée par des femmes autochtones à 10h dans le parc Quartier-Brébeuf, près du stationnement. Le parc Quartier-Brébeuf est situé au 175 rue de l'Épinay et c'est une activité mixte. On vous rappelle aussi la Grande Marche donc provinciale le 17 octobre dimanche à Rimouski. Il faut absolument s'inscrire pour le transport. C'est pas garanti qu'il vous reste des places, mais vous pouvez appeler au Conseil central de la CSN au 418-647-5818. Le départ est à 6h du matin dans le parc Victoria. Alors, bonne semaine et merci de nous écouter en rediffusion mercredi à 13h.